RCF.
Le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan connaît des difficultés financières depuis plusieurs années. Après un diagnostic, un plan de retour à l'équilibre budgétaire a été élaboré. Et pour le présenter, je reçois Frédérique Labro-Goubi, directrice du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission ce matin.
Alors déjà, comment ce diagnostic a-t-il été réalisé ?
Alors en fait, chaque année, l'établissement doit effectivement présenter un budget à l'Agence régionale de santé. Cette année, au regard des difficultés et de la fragilité financière que présentait l'établissement, l'ARS a décidé effectivement de façon justifiée de rejeter le budget et nous a accompagnés dans la mise en place d'un diagnostic sur la situation financière de l'établissement, mais plus globalement sur son positionnement territorial, sur le fait de vérifier si nos cadres d'exercice en matière de personnel soignant notamment n'étaient pas supérieurs aux moyennes nationales, et l'ensemble en fait de la démarche de diagnostic sur lequel à chaque étape nous avons associé les personnels, soit les personnels médicaux et les cadres paramédicaux dans le cadre des réunions de pôles de service, soit les personnels soignants en présentant le diagnostic et en partageant dans les services, nous a permis de fait d'élaborer après la réalisation de ce diagnostic un plan qui a été présenté à tout l'établissement.
Alors ce plan, il prévoit un retour à l'équilibre budgétaire pour 2020 et il repose sur 4 axes. Alors quels sont-ils ?
Alors la typicité de la démarche en ce qui concerne le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, c'est que nous sommes implantés, comme vous le savez, dans un espace géographique où l'évolution de la population devrait être extrêmement importante et est déjà extrêmement importante depuis ces dernières années. Donc il y a un pari qui a été pris sur l'évolution de l'activité de l'établissement, soit en s'appuyant sur nos équipes médicales, soit en mettant en œuvre des collaborations avec d'autres établissements pour développer de l'activité. Je prends un exemple très simple. Depuis le début du mois de novembre, sur le CHLVO, nous proposons des consultations et des interventions en ophtalmologie grâce à un partenariat que nous avons construit avec le CHU de Nantes. De la même façon, à partir de janvier, nous allons pouvoir réaliser des interventions en urologie grâce à un partenariat construit avec le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'est le premier axe, c'est-à-dire comment, en s'appuyant sur nos équipes ou en développant des partenariats avec d'autres établissements, on peut faire évoluer l'offre de soins et donc aussi, indirectement, financièrement, améliorer les recettes de l'établissement. Les trois autres points, ça concerne particulièrement les économies. Il y a un premier point qui porte sur ce que j'évoquais tout à l'heure, la réorganisation des services et donc de façon corollaire, dans certains cas, la fin de contrats concernant certains contractuels. Le deuxième point, c'est la substitution de personnels médicaux titulaires à des personnels intérimaires. Parce que sur certaines spécialités aujourd'hui, je pense particulièrement aux urgences, mais pas que seulement, nous sommes obligés de faire recours à des médecins intérimaires. Je fais une petite parenthèse sur cette question. Beaucoup d'établissements français, au vu des réformes qui ont été mises en œuvre concernant les urgences, sont obligés de faire recours à des praticiens intérimaires. Ça n'hypothèque pas la qualité des praticiens. Par contre, ça pose des problèmes plus globaux aux établissements, soit en matière d'organisation des équipes, soit en matière tout simplement de coûts, parce que il y a un écart de 1 à 3 entre une prestation par un médecin intérimaire et une prestation par un personnel titulaire. Et puis, au final, troisième mesure, qui est tout ce qui concerne l'amélioration de l'achat hospitalier. Les établissements hospitaliers, depuis plusieurs années, travaillent énormément sur ces questions-là, en globalisant et en collectivisant leurs achats dans des groupements nationaux. Cette démarche, elle doit encore être poussée d'un cran pour nous permettre, là aussi, de réaliser des économies. Voilà un peu pour les quatre grands axes de ce plan de retour à l'équilibre.
Donc qui devrait permettre de réaliser 6,8 millions d'euros d'économies. Comment ces mesures ont-elles été reçues par les personnels qui, vous l'avez dit, ont été associés dans le diagnostic?
Je pense que c'est toujours. Je pense que on avait la discussion l'autre jour en conseil de surveillance. Je crois qu'il y a vraiment une compréhension partagée des enjeux pour l'établissement et de la situation, puisque c'était le même diagnostic que nous portions depuis 2013. Donc voilà, les éléments étaient connus et partagés. Je crois que ça a renforcé effectivement le fait qu'on partage les mêmes éléments sur la situation de l'établissement. Donc sur la partie diagnostic, je pense qu'il y a une compréhension sur ces éléments-là et sur la nécessité néanmoins de les réaliser pour garantir la continuité de nos activités. Sur les mesures, on peut bien comprendre que l'aspect, effectivement, dans certains cas de réduction des effectifs, n'emporte pas une adhésion générale des personnels. Néanmoins, en accompagnant cette démarche par la mise en place d'un pool de remplacement et par une vraie réflexion de fond sur la coordination des professionnels et les activités annexes aux soins, je pense que ça peut accompagner correctement la démarche. Il faut savoir aussi que l'établissement a mis l'accent depuis plusieurs années sur une procédure auquel moi je suis particulièrement attachée, qui est l'accompagnement social des agents, qui peuvent être concernés par des mobilités dans le cadre de la réorganisation. Ça a été constamment un point de vigilance dans l'établissement, et de ma part et de la part de la DRH et du directeur des soins, et j'espère que, au mieux, en mettant en œuvre cet accompagnement, on essaye en quelque sorte de préserver un petit peu les personnels.
Et donc, parallèlement à ces mesures d'économie, vous allez investir notamment à Châlons et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Quelles sont vos priorités sur ces sites?
Alors, la très bonne nouvelle, c'est que parallèlement à cette démarche de PRE qui nous a quand même mobilisé de façon importante les 6 derniers mois, on avait proposé à l'Agence régionale de santé un schéma directeur immobilier. Alors, schéma directeur immobilier, je remets vite les choses en perspective, on n'est plus dans les époques où les établissements pouvaient être construits de A à Z de façon parfois inadaptée d'ailleurs par rapport aux besoins de la population. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de présenter des opérations à l'agence qui étaient vraiment importantes pour nous, prioritaires, et qui emportaient des conséquences directes sur la qualité de l'attractivité vis-à-vis des médecins, mais aussi et surtout sur la qualité de l'attractivité par rapport à nos patients et la qualité de prise en charge. Et donc, comme l'établissement aujourd'hui est contraint sur ces investissements, on a sollicité l'Agence régionale de santé sur plusieurs projets. Le projet prioritaire pour nous étant bien entendu le réaménagement des urgences. Le deuxième sujet étant la relocalisation de l'hôpital de jour, je reviendrai après dessus. Et le troisième sujet, plus global, étant celui de la mise aux normes du site de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc pour les urgences, c'est un soutien extrêmement important, parce que l'ARS s'est engagée à hauteur de 1,5 million d'euros pour nous permettre dans les 2 à 3 prochaines années de réaliser la modernisation des locaux. Pourquoi les 2 à 3 prochaines années? Parce que c'est un petit peu un projet au long cours. Aujourd'hui, le financement est garanti, mais il faut, pour pouvoir réaliser des travaux dans des zones occupées, un peu plus de temps que si on pouvait tout recommencer à côté et refaire de A à Z. Pour l'hôpital de jour, qui est donc une activité qui accueille des patients qui viennent moins de 24 heures, par exemple pour des chimiothérapies ou des transfusions sanguines ou des examens spécifiques de gastro-entérologie, là aussi l'ARS nous accompagne à un peu plus de 900 000 euros, ce qui est là aussi un soutien important et salué comme tel par le conseil de surveillance et la commission médicale d'établissement. C'est aussi des projets sur lesquels on travaille particulièrement en coopération avec le CST. Vous savez que depuis maintenant plusieurs mois, on constitue ensemble un groupement hospitalier territoire d'établissements hospitaliers publics. Et donc, ça nous permet aussi d'appuyer ces coopérations. Donc voilà, particulièrement sur les projets concernant le site de Châlons.
Eh bien, Frédéric Lavrogoubi, on arrive déjà au terme de cet entretien. Merci beaucoup pour ce point complet donc sur la situation du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Bonne journée.
Merci beaucoup et bonne fête à vos auditeurs.
Merci.
Au revoir.